OK, on va commencer notre septième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Aujourd'hui, on va regarder un côté pratique de la sanctification qui est compter les coups. Alors, dans Luc chapitre 14, les versets 26 à 28, on peut lire « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Alors, aucun croyant ne pourra se sanctifier sans que cela ne lui occasionne des coûts. Alors, le salut, bien entendu, est gratuit. C'est la part de Christ. Mais la sanctification est coûteuse pour le croyant. Ce sujet-là, c'est d'une importance capitale. Qu'est-ce que cela coûte à un chrétien d'être un homme saint? Les saintes écritures sont claires. Le croyant doit calculer la dépense. Pour avoir évité de réfléchir profondément à cette question et d'avoir agi en conséquence, plusieurs qui ont fait profession de croire sont devenus des apostats et se sont détournés du chemin étroit et resserré. Ils s'étaient bercés d'illusions et ont été finalement perdus en enfer pour l'éternité. Alors, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, ce qu'il en coûte pour être un véritable chrétien. Alors, comme on l'a mentionné tantôt, le salut de l'âme du chrétien est gratuit. Cependant, ce salut a coûté infiniment cher à Jésus-Christ. Cet enseignement est très clair dans la Sainte Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Mais nous ne devons pas penser que le croyant aura une vie facile, sans sacrifice et sans renoncement à soi-même. Le fait d'aller à son culte le dimanche, d'aller à sa soirée de prière et d'être raisonnablement moral durant la semaine ne le met pas automatiquement sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent, car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Alors, le premier sous-point qu'on va regarder, c'est le coût général d'être un vrai chrétien selon les standards de la Bible. Être un authentique chrétien amènera des ennemis qu'il faudra vaincre, des batailles qu'il faudra mener, des sacrifices qu'il faudra faire, un Égypte, qui est le symbole du monde, qu'il faudra oublier, un désert qu'il faudra traverser, une croix qu'il faudra porter et une course qu'il faudra terminer. La conversion ne consiste pas à mettre un homme sur une chaise confortable qui le mènera directement et facilement au ciel. Ce sera le début d'un puissant conflit dans lequel les coûts pour être victorieux sont grands. Donc, on a vu en général les différentes facettes. Maintenant, on va regarder les coûts spécifiques d'être un authentique chrétien. Alors, le premier coût, c'est celui de sa justice propre. Le croyant devra renoncer à son orgueil, à ses hautes pensées sur lui-même et sur sa propre bonté. Il devra se contenter d'être un pauvre pécheur sauvé par la grâce souveraine de Dieu et d'accepter que son salut repose absolument et entièrement sur les mérites et la justice d'un autre, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Il devra être persuadé que son salut ne repose pas sur sa propre moralité, sur sa respectabilité, sur ses prières, sur sa lecture de la Bible, sur son assistance au culte de l'Église locale, sur l'obéissance d'avoir pris le repas du Seigneur. Il devra placer son entière et unique confiance en Jésus-Christ. Cela est absolument nécessaire. Donc, c'était le premier coup spécifique. Le deuxième coup spécifique, c'est le coup de l'abandon de ses péchés. Le chrétien doit accepter de renoncer à toute habitude et à toute pratique qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Il doit se battre contre ses péchés. Il doit les abandonner. Il doit les crucifier et travailler fort pour les mortifier. Il doit le faire, quoi qu'en pense son entourage, quoi qu'en disent les hommes ou quoi qu'en pensent les hommes. Il doit le faire avec honnêteté et constance. Il doit haïr les petits comme les grands péchés, les péchés publics comme les privés. Il combattra constamment contre ses péchés. Certains de nos péchés nous sont chers. Nous les aimons. Nous leur sommes attachés. Nous les embrassons. Et nous nous délectons en eux. Mais tout cela doit cesser et de manière drastique. Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, « Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. » Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. « Rejetez loin de vous les transgressions dont vous vous êtes rendu coupable et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? » Daniel, chapitre 4, verset 27. « C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta prospérité doit se prolonger. » On a Ésaïe 1, verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vous la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » La troisième coup spécifique, c'est le coup de l'amour de son confort et de ses aises. Le croyant authentique connaîtra des troubles et des afflictions dans sa course vers le ciel. Il devra être diligent partout, en tout temps et en toute chose, dans la gestion de son temps, dans la gestion de sa langue, dans ses comportements, au milieu des étrangers comme à la maison, dans ses pensées intimes et dans ses motifs. Il devra être diligent dans ses prières, dans ses relations avec les Saintes Écritures, les lire, les écouter, les méditer, les étudier et les mémoriser, dans l'assistance à tous ses cultes et dans l'utilisation de tous les moyens de grâce. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement ou selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Luc 21, verset 17. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Matthieu, chapitre 10, verset 22 à 25. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Beelzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Matthieu, chapitre 5, versets 10 et 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. » Proverbes chapitre 13, verset 4. « L'âme du paresseux ne fait que souhaiter et il n'a rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Le quatrième coup spécifique, c'est le coup de la perte de la faveur du monde. Le chrétien ne devra pas se surprendre si on se moque de lui, si on le ridiculise, si on le calomnie, si on le persécute et si on le hait. On le considérera souvent comme un fou, un fanatique, et on le méprisera. Ses paroles et ses actions seront perverties et présentées sous un jour défavorable. Jean, chapitre 15, versets 20 et 21. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. » Alors, en Ésaïe 53, verset 3, on parle de Christ prophétiquement dans le contexte « méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. » Deuxième point qu'on va regarder, pourquoi il est important de compter les coups. De tous ceux qui ont professé avoir la foi biblique qui sauve, plusieurs ont fait naufrage et ont abandonné la foi pour retourner dans le monde et dans leurs péchés. Ceux qui ont professé croire, sous la pression des circonstances émotionnelles ou d'excitation collective ou d'un vague désir de faire comme les autres et qui n'ont pas compté les coûts de la sanctification, sont dans un danger extrême. Les Saintes Écritures et l'histoire de l'Église donnent de nombreux exemples de ce fait. Tenons compte de ces avertissements pour ne pas mourir dans nos péchés. Alors, le premier sous-point de ça, pourquoi il est important de compter les coups, c'est un grand nombre du peuple d'Israël ont péri misérablement. Beaucoup d'Israélites ont péri dans le désert, entre l'Égypte et Canaan. Ils avaient quitté l'Égypte pleins de zèle et de ferveur, comme si rien ne pouvait les arrêter. Cependant, lorsqu'ils ont rencontré des dangers et des difficultés sur leur chemin, leur courage a fondu comme neige au soleil. Lorsque des ennemis, des privations, la faim et la soif apparurent, ils murmurèrent contre Moïse et contre Dieu et voulurent retourner en Égypte. En un mot, ils ne comptèrent pas la dépense, perdirent tout et moururent dans leur péché. L'autre point, c'est que beaucoup d'auditeurs de Jésus-Christ lui-même l'abandonnèrent. Beaucoup de témoins des miracles de Jésus et qui écoutèrent sa prédication voulurent d'abord le suivre, croyant que le royaume de Dieu était pour paraître dans les médias. Mais peu de temps après, ils le quittèrent et ne voulurent plus le suivre. Jean, chapitre 6, versets 64 à 66. « Mais il y en a parmi vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Troisième point de cette affaire-là, Hérode retourna à ses vieux péchés. On lit dans Marc 6, par exemple, verset 20, « Parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis et il l'écoutait avec plaisir. » On sait qu'Hérode céda à la demande de la fille d'Hérodias, qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste comme récompense d'avoir dansé pour lui. Et on sait qu'il lui a accordé. Alors, Hérode retournait ses vieux péchés, On a un autre exemple dans les Écritures, Démas retourna dans le monde. Après avoir travaillé avec Paul, Démas l'abandonna pour le monde. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle, et il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. » Autre point, beaucoup d'auditeurs de l'Évangile ne persévèrent pas. Alors, on a la fameuse exemple du Christ qui parle des différentes semences. Alors, dans Matthieu 13, verset 10, 19 à 22, j'ai mis 10, mais c'est 19. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Alors, on a 4 sortes de semences, il y en a 3 qui ne sont pas bonnes. Alors, on voit là-dedans les différentes choses qui se produisent quand la parole de Dieu est annoncée. Il y en a qui réagissent vite. Il y en a d'autres que le malin vient tout de suite enlever. Il y en a d'autres qui suivent pour un bout de temps, puis dès qu'il y a des problèmes, ils s'en vont. Et quand on a le moindrement d'années de vie chrétienne derrière nous, on l'a observé dans la réalité maintes et maintes fois, ces choses-là. Maintenant, il développe aussi le point, J.C. Ryle, que beaucoup aussi de victimes d'une évangélisation défectueuse. Alors, les réveils, alors il parle des réveils et il veut montrer que dans les réveils, on l'avait vu un petit peu dans notre leçon sur les réveils et le revivalisme. Lui, il disait qu'il se méfiait beaucoup des réveils ou que c'était uniquement les émotions qui transportaient le monde. Il dit, dans le fond, méfiez-vous de ça et regardez les fruits à long terme. C'est ça qui va déterminer si vraiment la personne est née de nouveau ou non. Alors, les réveils authentiques ont été des instruments du Seigneur pour sauver des âmes. Cependant, le malin a produit toujours, quand il y a un véritable réveil, une contrefaçon de ce phénomène divin. Cette contrefaçon que les théologiens et les historiens du réveil ont appelée « revivalisme » pour faire la différence entre le véritable réveil. Alors, c'est important de saisir la différence entre les deux par opposition au véritable réveil produit par le Seigneur a contribué à ce que des âmes soient trompées et illusionnées. Cette contrefaçon du revivalisme prétend que le réveil peut être amené par les hommes et non souverainement par Dieu lui-même. Le revivalisme a grandement contribué à répandre un système théologique défectueux et désastreux dans ses conséquences. Ce système a trompé les hommes en laissant croire en une conversion sans repentance permanente, une invitation émotive où l'homme produit son propre salut par une décision, et la négligence des vérités sur la sainteté de Dieu, sur la profondeur de la corruption du cœur, sur les exigences du décalogue, sur la culpabilité et sur l'enfer. Alors souvent dans ces choses-là, même aujourd'hui dans ce qu'on appelle souvent les grandes prédications publiques, souvent ce sont des prédications qui sont défectueuses au point de vue de l'authentique. Alors ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se croient sauvés et qui, dans le fond, ne le sont pas du tout parce que ça a été mal présenté, l'Évangile n'a pas été présenté correctement. Alors, les défectuosités du revivalisme sont une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu dans le salut. Bien entendu, on remplace la souveraineté de Dieu par ta décision. Après ça, le rôle du Saint-Esprit remplacé par la volonté de l'homme. Autrement dit, la Bible dit que l'Esprit souffle où il veut, tandis qu'eux disent que c'est la volonté de l'homme qui choisit. Et la foi aussi qui est mal expliquée quant à sa source. Et la différence avec les émotions et les sentiments et une simple adhésion intellectuelle. Les antidotes au revivalisme sont prêcher tout le conseil de Dieu, la repentance comme acte permanent dans la vie du chrétien, la compréhension correcte du rôle du Saint-Esprit dans le salut et la nécessité de compter les coups dans la sanctification. Troisième point, quelques conseils pour aider à compter les coups correctement. Alors, il faut compter et comparer le profit et la perte. Alors, tous les croyants qui voudront se sanctifier et vivre pieusement perdront quelque chose dans ce monde. Cependant, le gain qu'ils feront pour leur âme est d'une valeur inestimable et définitivement incomparable. Marc 8, versets 34 à 37. Et appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Or, que donnerait l'homme en échange de son âme? » Donc, il faut compter le profit et la perte. Il faut aussi compter la louange et le blâme. Un croyant obéissant à la Bible se verra blâmé par les hommes, mais il sera loué par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous les blâmes viendront d'hommes et de femmes errants, aveugles et faillibles. La louange viendra du roi des rois et du juge de toute la terre. Ce ne sont que ceux que Dieu bénit qui sont réellement bénis. Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12, « Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Autre chose qu'il faut compter et comparer, les amis et les ennemis. D'un côté, il y a le diable et les méchants. De l'autre, vous avez la faveur et l'amitié du Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis du croyant ne pourront que le blesser au talon, pour prendre l'image de Genèse, mais ils ne pourront jamais les ravir de la main de Dieu. Luc 12, versets 5, 4 et 5. Et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Autre chose qu'il faut compter et comparer, la vie présente comparée à celle à venir. La vie présente n'est pas une vie de facilité. C'est un temps pour veiller et prier, pour se battre et lutter, pour travailler durement. Mais ce n'est que pour quelques années. La vie à venir sera éternelle. Satan sera écrasé et chassé, et les bénédictions célestes sont ineffable. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, « Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. » Autre chose qu'il faut compter et comparer, les plaisirs du péché versus le bonheur de servir Dieu. Les plaisirs liés au péché sont toujours illusoires, amers et insatisfaisants. Ils sont comme un feu d'épines qui étincelle et qui craque pour quelques instants, mais qui sont vite brûlés. Les joies et le bonheur de servir le Seigneur ne dépendent pas des circonstances et sont solides, durables et substantielles. Job, chapitre 20, verset 5. Le triomphe du méchant est de peu de durée et la joie de l'impie n'a qu'un moment. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, je vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Autre chose qu'il faut compter et comparer, les troubles de la vie chrétienne versus les troubles de l'enfer éternel. Une seule journée en enfer sera pire que toute une vie de grands troubles et d'afflictions sur la terre à cause de l'Évangile. Luc 16, versets 24 à 26. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. » Autre chose qu'il faut compter et comparer, le nombre de disciples de Christ versus le nombre d'apostats. Les apostats qui retournent dans le monde seront nombreux, mais ceux qui suivent Christ réellement ne retourneront pas dans le monde et dans leur péché de manière continuelle. Proverbe chapitre 4, verset 19, « La voie des méchants est comme l'obscurité, ils ne voient point ce qui les fera tomber. » Proverbe 13, verset 15, « Une raison saine donne de la grâce, mais la voie de ceux qui agissent perfidement est rude. » Et Proverbe chapitre 4, verset 8 à 10, « Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Acquiert la prudence au prix de tout ton avoir. Estime-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'auras embrassée. Elle posera sur la tête une couronne de grâce et te donnera un diadème de gloire. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie te seront multipliées. » Alors, j'ai mis trois applications. La première, examinons-nous et demandons au Seigneur de nous sonder. Notre religion nous coûte-t-elle quelque chose? Des sacrifices, de la persécution, du temps, de l'argent, des conflits avec notre chair, des combats avec le diable et les démons? Sacrifions-nous du temps pour accomplir nos devoirs envers les Saintes Écritures, envers la prière, envers l'évangélisation, envers la communion fraternelle et envers l'utilisation de tous les moyens de grâce? Deuxième application, méditons souvent et profondément à ce qu'il en a coûté à Christ pour sauver nos âmes. Pensons souvent à la mort, au jugement et à l'éternité. Troisième application, persévérons et progressons de jour en jour. Le temps est court, implorons l'aide du Seigneur pour continuer même lorsque nous sommes tentés d'abandonner ou lorsque le désespoir nous tente. Malgré que nos ennemis soient nombreux et puissants, que le péché qui nous habite conserve une grande force, que le chemin est parfois sombre et rocailleux, persévérons et rapprochons-nous encore davantage de Dieu. Béni soit Dieu, son don ineffable, Jésus-Christ notre grand Sauveur. Amen.
Amen.